Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de nos coups de cœur avec Nina et Blaise. Bonjour les filles.
Salut.
Salut.
Eh bien, aujourd'hui, donc, nous allons parler de nos coups de cœur respectifs. Toi, Nina, tu vas parler de quoi ?
Moi, je vais parler de Reprendre la terre aux machines, qui a été écrit il y a quelques années déjà par l'Atelier Paysan.
Je vais vous parler du dernier roman de Cécile Coulon, paru au mois de janvier de cette année chez l'Iconoclaste. Et il s'appelle Le visage de la nuit. Ça va, Blaise ?
Ça va et vous ?
Ouais, très bien. Tu vas nous commenter quoi aujourd'hui ?
Bah moi, pour ma part, aujourd'hui, je vais parler d'un roman qui s'appelle « Les secrets ne meurent jamais ». C'est un roman plutôt dédié pour la jeunesse.
Mmh. Peut-être que tu peux même d'ailleurs démarrer tout de suite. Explique-nous qu'est-ce que c'est ce roman.
Alors, déjà pour commencer, l'auteur, il s'appelle Vincent Ralph. C'est de l'édition Bayard. Et le roman, il faut savoir que c'est un roman anglais qui a été traduit par Anna Rivelin. Donc le roman, je trouve qu'il est vraiment intéressant parce que ça parle du cyberharcèlement, qui est un sujet actuel. Donc c'est pédagogique. Et aussi le narrateur, il est personnage et il incarne le personnage Sam dans l'histoire.
Qui est le personnage principal ?
Exactement, ouais. C'est le personnage qu'on suit. Et l'auteur aussi, il écrit des chapitres assez courts, mais ils sont rythmés. Et l'atmosphère, elle est stressante. Donc on suit une bande d'amis, Sam, Elisha, sa copine, Aaron, son meilleur ami, et Dom, Lorraine, qui est la sœur de Dom. Tous les ans, pour Halloween, ils vont chez Dom pour faire une fête, et ainsi aller à l'endroit sombre, qui est une cabane dans les bois, où ils vont enterrer leur père secret. Donc chacun leur tour, ils vont aller dans la cabane pour enterrer leur père secret, et enfin partager leur mal-être, qu'ils pouvaient en parler à personne. Mmh. Donc ça leur permet de se soulager. Mais un jour, va y avoir un personnage qui va débarquer dans l'histoire et qui va tout chambouler, qui s'appelle Sacha. Et elle va utiliser les réseaux sociaux pour les harceler. Au départ, ça va être plus centré sur le groupe. Et après, ça va être directement un harcèlement individuel, où elle va utiliser leurs points faibles pour leur forcer à faire des choses qu'elle veut qu'ils fassent. Et voilà, donc dans ce roman, on peut retrouver suspense, frayeur, trahison, psychologie et certains côtés gore.
Et toi, pourquoi tu as choisi, pourquoi tu as aimé ce livre ?
Il faut savoir que j'adore aller à la librairie Lawfire avec mes parents et que bah, je suis allée dans le rayon des romans et j'ai demandé à voir un livre qui fait peur parce qu'en ce moment, c'est ce que j'aime lire. Et elle m'a conseillé ce livre et donc bah, je lui ai fait confiance.
Est-ce que tu aimes bien la science-fiction, Blaise, aussi ?
C'est relatif, ça dépend laquelle.
Moi, j'ai commencé une nouvelle BD là, qui s'appelle The Nice House by the Lake, qui est sortie déjà il y a quelques années, mais qui est vraiment, comme me l'a vendu le vendeur, comme une série Netflix. Et franchement, c'est hyper bien. C'est plutôt de la science-fiction, mais ça me fait un peu penser à ce que tu viens d'écrire aussi, par son aspect interpersonne, interrelationnel, et un peu peur, un peu gore quand même.
Ouais.
Je le conseille en tout cas.
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que de une, j'ai découvert cet auteur, donc Vincent Ralph, que je ne connaissais pas auparavant. J'ai beaucoup aimé son style d'écriture, étant donné qu'il sait très très bien partager les émotions.
Mmh.
C'est-à-dire qu'on se met vraiment à la place des personnages. Et on ressent vraiment ce qu'il ressent, donc on sent la tension qui pèse sur eux, parce qu'ils hésitent à en parler à la police de ce qui leur arrive, mais en même temps ils ont peur, puisqu'il y en a qui veulent pas que les secrets soient révélés et tout ça.
Et est-ce que pour faire l'illustration, tu nous as choisi un extrait de lecture ?
Alors ouais, j'ai choisi un extrait de lecture dans lequel justement les adolescents du groupe sont réunis et se demandent s'il faut qu'ils en parlent à la police. Bien sûr, il y en a qui vont être d'accord et d'autres qui vont pas être d'accord. On peut en parler à la police, insiste Elisha. La question à ce stade, c'est pourquoi ne le faisons-nous pas ? Elle plisse les yeux, s'écarte légèrement de moi. On devrait déjà regarder la vidéo de mon frère, propose Lorraine. Dom nous passe son portable avant de s'écrouler sur une chaise. J'appuie sur lecture. La caméra est dirigée sur la maison de Dom. Cette maison. Et je frissonne. Lorraine est assise sur la terrasse. Elle allume les citrouilles pendant que son frère suspend un squelette en plastique à côté de la porte. On aperçoit un mouvement dans le couloir et leur père sort, une valise à la main. Il la range dans le coffre de sa voiture et vient aider Dom à accrocher la faucheuse sur un arbre. La caméra s'interrompt, puis reprend. Il fait noir, maintenant, et son porteur s'approche de la maison. La porte d'entrée est ouverte, de la musique devient de plus en plus forte à chaque pas. Il y a des gens dehors, mais ils ne remarquent pas la caméra. Ils fument et rient, ne tenant aucun compte de la personne qui s'introduit dans notre fête. Elle passe de pièce en pièce et un garçon lance « Super déguisement !» Pas de réponse. À travers la foule, je vois Dom qui parle à deux filles de terminale, Farida et Mel. Il sourit alors, s'éloigne d'elle et passe devant la caméra. Je lui jette un petit coup d'œil. Ses mains sont serrées, ses phalanges blanches de pression. « Sacha était ici, » dis-je. L'image se brouille, sursaute. À présent, c'est Taran, Dom, Elisha et moi qu'on voit. La caméra passe derrière nous, alors qu'on sort par l'arrière de la maison, dans le jardin, vers l'obscurité. Ensuite, la caméra retourne dans la maison, vers la salle de bain du rez-de-chaussée. Le bruit change, le caillou de la fête est étouffé par la porte fermée, et la caméra bouge lentement du carrelage vers le lavabo et enfin le miroir. Quelqu'un derrière un masque nous regarde. Le déguisement jaune lui couvre toute la tête, les bords gigotant comme des vers de terre séchés. Les yeux sont d'immenses trous noirs, pareils à des puits de désespoir. Ils me défient de m'approcher et me préviennent en même temps de ne pas m'y aviser. Le sourire est épais et rouge, comme le rictus sadique d'un meurtrier. Ils nous observent pendant 5 affreuses minutes, avant que l'écran se couvre de rouge et s'éteigne.
Eh ben, c'était super cette lecture.
Bah ouais, j'étais à fond dedans, moi.
Ouais, moi aussi. Je prêtais attention. Ça donne envie de le lire ou quoi?
Ça donne un peu envie de le lire, ouais.
Ouais, parce que le cyberharcèlement, c'est vrai, c'est un sujet, notamment pour les adolescents, mais nous, les grands, on peut le subir aussi.
Oui, et puis même, je pense que c'est une question, un enjeu de groupe aussi, de pouvoir, le texte que tu lisais, c'était qui va convaincre les autres, est-ce qu'on va en parler à la police ou pas, et je pense que c'est une situation face à laquelle on peut aussi, dans laquelle on peut se reconnaître.
Bravo Blaise. Vous êtes sur Canal B, nous sommes ensemble pour parler de nos coups de cœur et maintenant c'est à toi Anina.
Eh ben aujourd'hui je vais vous parler de Reprendre la terre aux machines, manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire. C'est sorti aux éditions du Seuil en 2021 dans la collection L'Anthropocène. Vous savez, c'est une collection qui a publié également Descola et Pignocchi, mais aussi Arturo Escobar ou Pablo Servigne. Bref, tout un tas d'essais assez passionnants sur la situation écologique dans le monde aujourd'hui. Alors ce manifeste, il est éminemment politique et il est plus que jamais d'actualité parce qu'il parle d'intérêt général dans le monde agricole. C'est un intérêt général qui est fortement maltraité en ce moment puisque au moment où je vous parle, la loi d'urgence agricole est en train d'être débattue à l'Assemblée nationale et Greenpeace a dit à propos de cette loi qu'elle organise l'assèchement de la démocratie de l'eau et qu'elle accélère l'industrialisation de l'élevage. Mais bon, venons-en au texte de Reprendre la terre aux machines. Déjà, le nom de l'auteur, c'est L'Atelier paysan. C'est encore un ouvrage qui est rédigé par un collectif et c'est plutôt beau l'intelligence collective et c'est aussi beau de ne pas vouloir s'attribuer la gloire de ce manifeste qui est pourtant très brillant. L'Atelier paysan, c'est un collectif qui accompagne les agriculteurs et agricultrices dans la conception et la construction de machines adaptées à leur agroécologie paysanne. Et alors dans ce manifeste, ils nous décrivent une situation actuelle où l'usage des pesticides s'aggrave, où les petites fermes disparaissent au profit de fermes-usines et où la qualité alimentaire se et où la qualité alimentaire se dégrade pour tout le monde. Et ce texte, il est très puissant, et je trouve que c'est dû en partie au fait que l'écriture est limpide alors qu'elle s'attaque à des problèmes qui sont pourtant ardus. Le texte décrit en quelques paragraphes très clairs des mouvements économiques et des politiques publiques complexes depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. La démonstration, elle est solide sans être revancharde. La force du texte, en tout cas moi là où je lui ai trouvé de la force, c'est dans sa nuance. C'est de savoir nous faire comprendre le rôle qu'ont joué les différents gouvernements et les mastodontes de l'agroalimentaire à différentes époques. Mais c'est aussi et surtout de nous faire comprendre les différentes pressions subies par les agriculteurs et les agricultrices depuis toutes ces années. Et au bout d'un moment dans le livre, on arrive à comprendre pourquoi des petits exploitants en sont venus à utiliser en masse des pesticides et pourquoi aujourd'hui ils se sentent personnellement visés lorsqu'il est question de réduire ces produits chimiques pour le bien commun. Alors là, peut-être que vous vous dites, bah oui, c'est encore un bouquin de gauchos pour les gauchos. Eh bien oui, mais non. La force de cet écrit aussi, c'est de ne pas être manichéen. L'atelier paysan critique également certaines organisations syndicales marquées à gauche et affirme aussi que l'agriculture bio et paysanne ne réussira pas à sauver notre système agricole. Ils affirment qu'aujourd'hui le bio c'est seulement un marché de niche qui au mieux fait vivre des agriculteurs et protège quelques petits bouts de champs, mais au pire devient juste l'excuse pour que à côté puisse continuer le grand massacre écologique orchestré par l'agro-industrie. Et cette analyse, ils s'en servent pour parler d'un impensé bien précis, le machinisme ou la machinisation, les machines, bref, en gros la technologie de plus en plus avancée qu'on demande aux agriculteurs d'utiliser sous peine de ne pas être assez productifs. Cette machinisation les enferme dans une spirale d'endettement, de dépendance et dans une dépossession fulgurante de leurs connaissances, de leur sol, de leur culture, mais aussi de leurs outils. Alors, est-ce que pour autant tout est perdu d'avance et il faudrait baisser les bras ? Eh bien non, surtout pas. Toute cette démonstration permet de dessiner une ligne de résistance bien précise, celle de se réapproprier les outils et machines agricoles, dessiner ses propres machines, les construire et savoir les réparer, les modifier. Mais tout ça, eh bien, c'est le propos de la fin de l'ouvrage et comme c'est bien trop compliqué pour que je vous l'explique, eh bien, je vous laisse le découvrir par vous-même.
C'est pas mal du tout. Combien même nous sommes en train d'enregistrer cette émission dans un moment particulier, en pleine canicule, à Rennes, il fait plus de 30 degrés. Et est-ce que finalement, on n'est pas un tout petit peu obligé d'avoir un tant soit peu de bon sens ?
C'est un peu la question que ça nous pose. C'est assez intéressant ce livre parce qu'on pourrait se... Moi, j'ai pensé à première vue, je vais rien comprendre, c'est trop expert, c'est trop niche, j'y connais rien à l'autonomie paysanne et aux machines agricoles. Vraiment, leur démonstration, elle est vraiment puissante parce qu'elle est bien vulgarisée, mais sans nous prendre pour des cons non plus. Mmh. Et ils arrivent vraiment bien à résumer 60 années de réformes publiques, de réformes européennes, tout en les expliquant concrètement ce qui s'est passé pour la personne qui, tous les jours, va dans son champ, utilise son tracteur et met les mains dans la terre. Et c'est ça que je trouve assez beau, c'est faire communiquer un niveau méta, on va dire, un niveau politique, avec un niveau très citoyen et paysan. Et ça, c'est hyper intéressant, notamment quand on ne connaît pas ce milieu, je pense.
Il y a une autre chose entre deux également, et est-ce que le livre le souligne très bien, c'est le fait que les consommateurs sont aussi des personnes qui participent d'une façon ou d'une autre, même sans le savoir, parce que leur choix alimentaire va jouer un rôle fondamental dans l'agriculture locale.
Ça, c'est trop intéressant. C'est le point pivot de la démonstration. Ils disent effectivement que en fait, le bio, c'est un marché de niche pour les riches et que le bio n'est pas compétitif à partir du moment où tout le monde fera du bio. La concurrence se remettra à aller vers le plus bas coût de production et que ce sera quand même la même course que dans le conventionnel. Et en fait, ils soulignent surtout que les gens qui ont les moyens de se payer du bio aujourd'hui, c'est une part infime de la population et qu'en fait, ça ne sert à rien de faire du bio si on ne repense pas le système alimentaire et qu'on n'arrive pas à faire augmenter le pouvoir d'achat pour tout le monde. Donc évidemment qu'il y a une notion de justice sociale là-dedans qui est importante. Et ce qui est fou, c'est qu'ils disent même pas, je ne crois pas avoir lu le mot écrit « justice sociale », mais pourtant ça transparaît dans tout leur écrit. C'est vraiment brillant.
J'entends. Il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a l'agriculture bio, mais pas que. Il y a aussi ceux qui viennent de l'agriculture plutôt classique, qui sont en agriculture raisonnée, qui sont en train de souhaiter vivement de faire la transition, puisque parfois ce sont quand même des fermes depuis plusieurs générations et le modèle ne tient plus, c'est-à-dire si les agriculteurs roulaient sur l'or, on le saurait. Si tous aussi les faisaient vraiment bien manger et ne pas se suicider, on le saurait.
On le saurait aussi.
Donc, pourquoi pas sortir et aller rendre visite aussi aux fermes qui sont aux alentours de chez nous, notamment les plus petites, pour les soutenir et faire des achats en direct à la ferme. Et surtout, respecter une certaine saisonnalité, puisque finalement, c'est ça qui compte également pour que la terre, elle soit parfaitement vis-à-vis d'aujourd'hui, parfaitement entretenue par les agriculteurs. C'est compliqué, les parcelles. Il faut vraiment travailler dans un parc, les laisser, non pas l'épuiser, mais les laisser effectivement se reposer avant d'imaginer de replanter dans une parcelle.
Tout à fait. Et si dans ce livre, dans ce manifeste, on parle de tout ça, vraiment le point un peu nouveau, innovant qui a amené, c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire de se réapproprier ces outils de travail et qu'est-ce que concrètement ça nous permet de déverrouiller dans le système agroalimentaire aujourd'hui. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Donc, je vous invite vraiment à lire, parce que j'en ai pas trop parlé dans mon commentaire, mais parce que c'est très précis. Et eux, ils ont une expertise, parce que l'atelier paysans, donc ça a été un collectif qui a formé des agriculteurs et agricultrices à concevoir, à modifier, à souder et construire leurs propres machines. Aujourd'hui, ils se dissolvent, mais ils lancent un programme qui s'appelle Soudon Ferme, où ils transmettent tout le savoir accumulé jusqu'à aujourd'hui à plein de petites bulles d'autonomie paysanne partout en France. Donc si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à regarder ce programme qui s'appelle Soudon Ferme.
Super. Alors ça me fait penser quand même à ce documentaire qui est très important à regarder, Violence dans les champs, de notre très cher Nicolas Legendre et Magali Serre. Elles ont co-réalisé ce documentaire qui est totalement disponible sur le site de France TV jusqu'au 29 septembre de 2028. C'est dire quand même si ce documentaire n'est pas important à vue de tous.
Et d'ailleurs, on a reçu Nicolas Legendre dans l'émission d'actualité de Canal B. Si vous allez sur canalb.fr à l'émission 3 en 1, vous pourrez retrouver une interview de lui, une interview de 20 minutes qui raconte comment c'était de transposer à l'écran l'enquête qu'il avait initialement écrite, Violence dans les champs. Donc n'hésitez pas à aller écouter cette interview. Interview aussi.
C'est l'émission Le Nombril de Vénus avec Nina, Blaise et moi-même pour nos coups de cœur. Maintenant, moi, je souhaiterais vous parler de ce livre absolument magnifique et d'une maîtrise au niveau de l'écriture que tu peux verser ta petite larme, en fait. Le visage de la nuit de Cécile Coulon, paru aux éditions L'Iconoclaste au mois de janvier de cette année. Imaginez-vous un petit village, complètement intemporel comme histoire, mais un petit village où presque un cul-de-sac, on va dire, entouré de forêts dans laquelle les êtres qui habitent, très peu de personnes habitent ce village, sont un peu étranges et ils ferment leurs fenêtres assez tôt. Ils sont très chez eux, mais il y a une vie quand même dans ce village puisqu'il y a une église au milieu du village. Tiens. Donc il y a quelque chose qui les rassemble. Et puis il y a un garçon qui vit seul avec son père dans une maison, dans le bourg. Et ce garçon de 7 ans, il y subit une fièvre presque mortelle. Mais il arrive tout de même à s'en sortir grâce à un marabout qui vient le rendre visite. Est-ce que parce qu'il y a ce marabout qui est venu chez lui, il était pris d'une sorte de sort maléfique, puisque cette fièvre très très forte et très intense qui a duré plusieurs jours, lui a rendu le visage complètement affreux. Mais alors, quand j'ai dit affreux, le type, il est devenu un monstre, quoi, tu vois. Et en gros, le père perd la tête, disparaît, et le prêtre va rendre visite à cette famille, sachant que malheur est arrivé, et il découvre l'enfant, le monstre, finalement, couché dans son lit. Alors, le prêtre, il comprend très bien que dans ce village, un garçon comme celui-ci ne pourra plus jamais être accepté par les siens, par son entourage. Et il prend ce garçon et il l'amène avec lui au sein de l'église. Et effectivement, avec une autre personne qui l'aide beaucoup, une autre femme qui, elle, ne voit pas, eh bien, ils vont tous les deux élever cet enfant, c'est-à-dire élever à huis clos, élever fermé dans cette église de jour, élever dans l'apprentissage. Et puis, ce garçon, à un moment donné de sa vie, enfermé comme ça tout le temps, bien sûr, il commence à avoir des folles envies de sortie parce que ça lui pèse quand même sur le cœur. Un jour, le prêtre l'annonce qu'il va pouvoir commencer à sortir de chez lui s'il respecte en fait le fait qu'il peut y aller uniquement durant la nuit et ne croiser personne. Et donc, dans cette forêt très dense dans laquelle ce personnage magnifique qui n'a pas de nom, aucun personnage a de nom dans ce livre. On ne sait pas à quelle période ça s'est passé, cette histoire, racontée avec la plume absolument sublime de Cécile Coulon. Ce garçon, à un moment donné, dans ses virées nocturnes, il va non seulement commencer à découvrir la nature de beaucoup plus près, être beaucoup plus pertinent, mais il va aussi commencer à s'occuper de ce qu'il y a autour de lui, notamment des animaux morts, pour les rendre un dernier hommage, pour les rendre beaux, pour leur donner une certaine dignité dans leur mort. Et en plus, étrangement, il y a une autre famille qui va arriver dans ce village avec un autre garçon dans la maison qui a une problématique très très différente de la sienne, mais semblable puisqu'il ne peut pas lui non plus se montrer. Finalement, dans ses sorties nocturnes, il va faire la rencontre avec la sœur aînée de ce garçon qui est lui aussi enfermé chez lui pour d'autres raisons. Mais tout ceci se passe donc dans un village très particulier, très spécial. Et je trouve vraiment que le côté garçon qui apprend à vivre en toute solitude, mais que petit à petit on va découvrir grâce à ses connaissances notamment, et grâce à toutes ses sorties nocturnes, et grâce à ce qu'il commence à faire de lui-même, et tout l'apprentissage qu'il est délivré, finalement, au bout d'un moment, il va être quelqu'un qui va être complètement intégré, même sans se montrer, au sein de ce village. C'est fou ça, non ?
Et comment tu le vois ça dans le livre ? Les villageois s'en rendent compte, ils savent qu'il est passé ?
Oui, alors je pense bien, le village il est assez petit pour que tout le monde sache que ce garçon il est enfermé dans cette église. Mais il y a une espèce de non-dit comme ça tacite qui fait que les gens ne cherchent pas à savoir comment il va, comment ça se passe, est-ce qu'on va le voir. Non, la curiosité elle est un petit peu tenue, un peu comme sous cloche. Mais c'est au travers de toutes les connaissances qu'il va développer, et par lui-même et par ceux qui sont en train de le faire apprendre la vie, les arts, les techniques, la science, etc., il va trouver un métier. Et en fait, trouver un métier, c'est participer d'une communauté. Et c'est pourquoi, même en étant peut-être quelqu'un qu'on ne peut pas voir, même en étant hideux au point de faire peur et de passer par un monstre, il va trouver sa place. Et donc, en ça, le livre, il est lumineux. Alors que c'est un livre dans lequel on va se plonger et on va vivre beaucoup la nuit. Parce qu'on va vivre beaucoup aussi avec lui, ses sorties nocturnes, la densité de la forêt, le fait qu'il peut de plus en plus courir pieds nus. Peut-être même tout nu s'il veut, parce qu'il est seul. Donc il y a une folle liberté, en fait, qui commence à surgir dans ce personnage. On est presque, je ne sais pas, ça peut nous rendre presque envieux. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, voilà.
Est-ce qu'il y a, dernière question, ça m'intrigue un peu, ça me fait un peu penser à la symphonie pastorale d'André Gide, quelqu'un qui a, enfin, du côté de la personne aveugle, quelqu'un qui est aveugle et qui recouvre la vue, et du coup on se rend compte petit à petit ce que c'est que découvrir le monde. Là j'ai l'impression que le jeune il découvre le monde par un certain aspect, quoi, la vie dans la forêt. Mais est-ce qu'il y a une relation un peu haine-amour avec les deux personnes qui l'ont recueilli, ou c'est juste cette relation d'apprentissage qui est tissée et dessinée ?
Les deux personnages adultes qui sont en train d'accompagner ce jeune garçon dans cette église, ce sont des personnages bouleversants. Ils sont d'une droiture, d'une comment dire, d'une bienveillance, d'une lucidité par rapport à ce garçon qui est saisissante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils savent très bien qu'à partir d'un certain âge, ce garçon va se révolter, va se tourner contre eux. Et ils se préparent, en fait, à cela. Ils accueillent. Et ça, c'est magnifique. C'est un livre qui parle aussi des religions, mais non pas d'une manière pour justifier justement cette bienveillance de ces personnages. On sent, ça se passe dans une église parce que c'était le lieu où ça rassemble les gens à des moments précis dans la vie, dans la mort. Et puis, n'oublions pas que dans une église, il peut y avoir une crypte et la crypte deviendra probablement le lieu de travail de ce garçon. Pas mal.
D'accord,
ça. Hein?
Pas mal.
Ouais, un cliffhanger. Pas mal. Oh yes, Claire. Alors voilà, c'était Le visage de la nuit de Cécile Coulon que je ne peux que vous recommander vraiment chaudement, mais courez-y à la librairie ou à la bibliothèque où vous voulez le chercher pour vos vacances d'été. C'est un livre, voilà, vous êtes à la plage, il fait un peu chaud et vous êtes au même temps à la forêt avec ce garçon qui découvre des âmes mortes mais qui les rend très jolies. C'est un truc à faire, quoi. C'est très goth comme livre. Je sais pas, mais j'ai beaucoup aimé, mais il a un côté assez gothique.
C'est le noir et la nuit.
Bien, c'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B.
Ça donne envie de danser.
Mais oui, hein. Vous pouvez trouver ce podcast sur canalb.fr. Merci beaucoup, Nina.
Merci.
C'était
à toi.
Trop chouette, cette émission. À bientôt, alors.
À bientôt.
Et pour vous qui nous écoutez, bon week-end. Bisous. Bye.